Décryptage. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Deux événements d'importance cette semaine pour le président américain Joe Biden. Demain soir, son premier discours de politique générale devant le Congrès. Le second événement est plus symbolique, hein. Jeudi, le 100e jour du mandat de Joe Biden. Alors à cette occasion, on va tenter de tirer un premier bilan de son action à la Maison-Blanche. Les défis s'annonçaient colossaux après la présidence de Donald Trump. Est-ce que la rupture Biden est à la hauteur de ses attentes? Qu'est-ce que les premières décisions disent de l'orientation de ce mandat? Voilà notre décryptage ce soir. Bienvenue à tous. Et notre invitée est Françoise Coste, historienne spécialiste des États-Unis, professeure à l'Université de Toulouse. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, quelles sont, selon vous, les premières grandes décisions que l'on peut retenir de ce début de mandat de Joe Biden?
Pour moi, il y en a deux. D'abord, c'est l'accélération assez impressionnante de la gestion de la pandémie. Avec, on s'en souvient peut-être, au moment de l'élection, Biden avait promis 100 millions de vaccinations pour les 100 premiers jours. Qui arrive cette semaine. Et en fait, on va être à 200 millions de vaccinations en 100 jours. Donc, il a doublé la cible initiale qui était déjà assez ambitieuse. Donc, ça, c'est un très grand succès.
Les États-Unis, effectivement, qui étaient le premier touché, le premier pays touché par la pandémie, le pays le plus endeuillé dans le monde au moment du début du mandat de Joe Biden.
Voilà, en nombre de décès par million d'habitants, c'est le plus touché. Et en 3 mois, le pays commence à tourner la page. On le sent dans la culture américaine, dans l'attitude des gens, dans les villes, dans les médias. La page est en train d'être tournée. C'est assez spectaculaire comme retournement. Voilà. Donc ça, c'est le premier grand succès. Et le second, c'est le grand plan de relance voté fin janvier avec un budget de 1900 milliards de dollars qui est lié au Covid, mais pour relancer l'économie avec des niveaux de dépenses historiques aux États-Unis pour soutenir la population et faire repartir l'activité.
Alors, la campagne de vaccination contre le Covid, le plan de relance effectivement de 1900 milliards de dollars, les deux points les plus importants selon vous de ces 100 premiers jours du mandat de Joe Biden, mais vous nous parlez là que de décisions de politique intérieure. Il y a plusieurs décisions de politique étrangère aussi qui ont été prises. Joe Biden était très attendu sur ce point-là également.
Oui. Alors, traditionnellement, surtout vu le contexte sanitaire, les présidents américains, les nouveaux présidents américains, ils partent pied au plancher sur la politique intérieure, surtout quand il y a une crise de cette ampleur. La politique étrangère, ça met un peu plus de temps à se mettre en branle parce que c'est un peu plus complexe. Mais on voit, au bout de 100 jours, quelques premières décisions, quelques premières leçons qu'on peut tirer. Et je pense que, clairement, et ça c'est une conséquence directe des années Trump, Biden a voulu tout de suite, très vite, tendre la main aux alliés, rétablir les liens historiquement forts avec les alliés, en particulier européens des États-Unis. Et ça s'est vu en particulier sur la question du climat, avec Trump qui a été sorti des accords de Paris, on s'en rappelle, et Biden qui immédiatement a remis les États-Unis dans les accords de Paris. Il est non seulement revenu dans les accords, mais on sent qu'il essaye de prendre une position de leader, de locomotive. Donc ça, c'est une très grande différence, plutôt qui marche assez bien jusqu'à présent. La deuxième grande leçon, qui est plus compliquée, c'est que comme Trump, Biden a bien compris que le grand challenge de sa présidence en politique étrangère, ça va être gérer la montée en puissance de la Chine dans le monde. Et Trump n'est pas vraiment réussi à contenir la Chine. Biden va adopter une autre stratégie, mais pour l'instant, on ne sait pas laquelle. Voilà, c'est le grand point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la Chine? Ça, on ne le sait pas encore.
Est-ce qu'on peut, pour compléter un petit peu ce tableau du premier bilan des 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche, est-ce qu'on peut ajouter le retrait des soldats américains d'Afghanistan au 11 septembre? C'est une décision importante. Et puis l'objectif de réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien, ce sont deux points importants selon vous?
Oui, alors réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien, là aussi, c'est défaire ce que Trump avait fait, ou plutôt refaire ce qu'il avait défait, en rejoignant le processus que Trump avait quitté. Donc là, effectivement, c'est aussi un retour aux années Obama, si on veut, après le détour des années Trump. Sur la question... Sur votre autre remarque, j'ai oublié, c'était le
retrait des soldats américains d'Afghanistan en septembre.
C'est pas, enfin, comment dire, ça, c'est le serpent de mer de la politique étrangère américaine, parce que là, Obama avait aussi essayé, Trump avait aussi essayé, et là, Biden, et ça a toujours échoué parce que les généraux américains ont toujours au dernier moment dit au président, qu'il soit Bush, Obama ou Trump, oui, vous voulez partir, oui, l'opinion publique est mûre pour partir, mais il faut rester. Et là, on dirait que Biden a entendu les généraux et leur a dit non, en disant, j'ai vu comment vous aviez piégé Obama, vous ne me piégerez pas. Ensuite, si c'est une bonne... Enfin, on verra plus tard, mais ce que ça va provoquer comme bouleversement en Afghanistan, on verra si c'est une bonne décision ou pas. On peut aussi se poser la question du symbole du départ le 11 septembre, pour le 20e anniversaire des attaques. Est-ce que partir 20 ans après, en laissant derrière soi un pays... pas nécessairement en pleine forme sur le plan politique et religieux, est-ce que c'est pas en réalité souligner l'échec américain dans la guerre contre le terrorisme?
Alors, François Scott, vous avez parlé évidemment de Donald Trump parce que Joe Biden est très attendu évidemment en ce début de mandat en termes de rupture par rapport au mandat de son prédécesseur. Et parmi les premières actions que Joe Biden a menées, il s'agissait évidemment de détricoter les mesures prises par Donald Trump. Et Joe Biden ne s'en est pas caché. On va écouter ce qu'il disait à la fin du mois de janvier, donc c'était quelques semaines après sa prise de fonction. Et c'était à propos de l'accès aux soins de santé.
En fait, la meilleure façon de décrire ce que je fais, c'est réparer les dégâts causés par Trump. Il n'y a rien de nouveau que nous faisons ici, à part restaurer la loi sur la réforme de la santé et rétablir la couverture maladie telle qu'elles étaient avant que Trump ne devienne président. Le deuxième décret que je vais signer modifie également ce que l'ancien président a fait sur l'accès des femmes à la santé. Je ne suis à l'origine d'aucune nouvelle loi, d'aucun nouvel aspect de la loi. Cela revient à ce qu'était la situation avant le décret présidentiel.
François Scott, puisqu'on évoque les 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison-Blanche, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, finalement, le président américain a d'abord défait les actions de Donald Trump avant de proposer de nouvelles choses?
C'est un peu injuste de dire ça, parce que oui, il a défait beaucoup de choses, c'est vrai. En même temps, il faut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont maintenant acquises et sur lesquelles on ne peut pas revenir. Je pense par exemple, ici ça paraît anecdotique, mais aux États-Unis c'est très important, le déplacement de l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem par exemple. Ça, Trump l'a fait, Biden n'y reviendra pas, ce serait trop compliqué de réouvrir le sujet. Et on peut aussi ici lister la question des juges à la Cour suprême. Trump en a nommé 3 en 4 ans, c'est vraiment historique. Et là, c'est juste qu'ils sont nommés à vie, donc la Cour suprême va être, on va le voir dès juin à la fin de la session qui traditionnellement se finit, la session annuelle en juin, la Cour suprême va être un gros contre-pouvoir contre Biden, ce sera un contre-pouvoir très conservateur. Donc ça, et Biden n'y fait rien. Donc, et enfin, donc il a ce qu'il a défait, il a ce qu'il ne peut pas défaire, et il c'est pour ça qu'il faut être juste avec lui, admettre qu'il a aussi été très proactif, très ambitieux, très original, et en fait, beaucoup plus réformateur, et disons-le, beaucoup plus à gauche, que quiconque pouvait l'imaginer pendant la campagne.
Oui, alors qu'on avait peur qu'il divise au sein de son camp, il y avait des voix, notamment à gauche, il y avait une crainte qu'il n'y ait pas une entente. Finalement, les démocrates soutiennent totalement Joe Biden.
Voilà, vous avez raison, il y avait beaucoup de craintes parce que dans les primaires de l'année dernière, Joe Biden a vaincu Bernie Sanders, qui est bien entendu l'égérie de la gauche démocrate. Donc on avait vraiment peur, et au vu de son immense carrière, parce que il a presque 80 ans, il a été élu sénateur pour la première fois il y a presque 50 ans, donc vu on le connaît, hein, c'est pas voilà, tout le monde le connaît par cœur. Il a toujours été centriste, Joe Biden. C'était vraiment l'aile centriste du Parti démocrate. Mais depuis janvier, il s'est clairement dévié vers la gauche. Alors, est-ce que c'est par souci de calcul au sein du parti, justement, pour garder l'entente au sein du parti? Ou est-ce que c'est aussi parce que, vu l'immensité de la crise sanitaire et économique, mais aussi institutionnelle, à cause des 4 ans de Trump et la crise du Covid, il y a une épiphanie où il s'est rendu compte qu'il fallait sans doute renouer avec le keynésianisme du New Deal rooseveltien, par exemple, typiquement ce qui a inspiré son plan de relance.
Ça, c'est intéressant. C'est une des questions que je voulais vous poser, parce que l'une des premières mesures que vous avez citées à propos des 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison-Blanche, c'est ce plan de relance colossal de 1900 milliards de dollars pour relancer cette économie américaine fortement touchée par la pandémie de coronavirus. Et certains affirment que Joe Biden est parti sur les mêmes bases, justement, que Roosevelt et son New Deal après les années 30. Vous en pensez quoi?
Je crois que c'est tout à fait pertinent, et c'est très inattendu, ce qui le rend la situation encore plus intéressante. Pour moi, Joe Biden, clairement, c'est, et j'aurais jamais cru que ce serait lui qui incarnerait ça, mais c'est le premier président qui a tourné la page du réganisme. Ronald Reagan, il a été élu en 1980, donc ça fait pile 40 ans. Et il a, bien entendu, depuis, il y a eu des présidents démocrates, mais même les présidents démocrates depuis, comme Clinton et Obama, on sentait qu'ils étaient dans un cadre de référence imposé par le réganisme, en particulier avec le dogme de la baisse des impôts, le dogme du soutien aux entreprises, le dogme de la baisse des dépenses sociales et le dogme de l'obsession de la dette et du déficit. Et par exemple, et c'est tout ça, c'est par exemple Obamacare, la grande réforme de santé dont parlait Biden tout à l'heure dans cet extrait, elle a été conçue, cette réforme, avec ce souci du déficit, par exemple. Toujours à l'esprit. Et ces soucis-là, dont le plan de relance de Biden, ils ont disparu.
Ça, c'est très novateur, Biden, parce que aggraver comme ça la dette aux États-Unis, voilà. C'est assez révolutionnaire. C'est de cette ampleur pour vous, oui. On compare...
Le déficit, tant pis pour la dette.
On compare à Roosevelt. C'est de ce niveau-là. Donc, on est largement... La rupture Biden, elle est largement au-dessus des attentes, qui étaient énormes, après le mandat de Trump.
Oui.
Après son jour.
Et elle est largement. Disons que Bernie Sanders aurait été élu, en tout cas pour l'instant, sur le plan social et économique, Bernie Sanders aurait fait la même chose. Vous voyez? Donc on est de cet ordre-là de recentrage, de regauchisation, je devrais dire plutôt, du Parti démocrate. Peut-être que ça ne durera pas, mais c'est son premier jour. Ils sont effectivement dans l'ambition idéologique comparable au New Deal de Roosevelt. Je pense que dans les livres d'histoire, c'est la comparaison qui s'imposera.
Alors voilà pour l'aspect économique, et il est important évidemment avec la crise que vivent les États-Unis avec la pandémie de coronavirus. L'un des premiers engagements de Joe Biden, ça a été de rassembler les Américains, chose évidemment pas facile après le mandat de Donald Trump. Je vous propose d'écouter sur ce sujet ce que disait justement Joe Biden le 20 janvier dernier. Le 20 janvier dernier, c'était le jour de son investiture.
I pledge this to you.
Je vous fais la promesse, je serai le président de tous les Américains. Tous les Américains. Je sais que parler d'unité peut paraître pour certains un fantasme insensé de nos jours. Je sais que les forces qui nous divisent sont profondes et qu'elles sont réelles. Mais je sais aussi qu'elles ne sont pas nouvelles. Un cri qui ne peut être plus désespéré ni plus clair est maintenant cette montée de l'extrémisme politique, de la suprématie blanche, du terrorisme intérieur que nous devons affronter et que nous vaincrons.
Voilà, Joe Biden, donc, lors de son discours d'investiture, c'était 2 semaines après l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump. Vous vous en souvenez évidemment, Françoise Coste. Autrement dit, le mandat de Joe Biden a débuté à un moment où la démocratie américaine était particulièrement mise à mal. Est-ce que, 100 jours après, vous avez le sentiment qu'il a avancé sur cette mission très difficile de rassembler les Américains?
Alors, plutôt oui, si on regarde les sondages. C'est-à-dire que les sondages de popularité... sont très hauts pour Biden, beaucoup plus hauts que Trump au même moment de sa présidence, mais même plus haut qu'Obama au début de 2009 quand il est devenu président. Donc le style Biden plaît, mais en fait c'est comme une C'est très réfléchi. On sent là le vieil animal politique qui a bien analysé la situation. Il joue la carte de l'anti-Trump. Il est populaire parce qu'en fait, il est très peu visible. C'est le contraire de la bête médiatique de Trump. Et on sent qu'il a compris que après 4 ans de Trump, et après quand même ce mini coup d'État du 6 janvier, ce dont les Américains avaient besoin, c'était de soutien économique, ça s'est fait, et de calme. Voilà.
Très peu visible, mais on avait peur aussi, par rapport aux attentes qu'on évoque depuis le début de cette émission, du papy, permettez-moi l'expression, de 78 ans, gaffeur, parce qu'il était désigné un peu comme ça, oui. Joe Biden, derrière le bureau ovale. Ça ne se passe pas comme ça.
Ou en tout cas, comme il est très présent, il gaffe en privé. voilà. C'est aussi une stratégie de communication pour le protéger, justement, parce que ce n'est pas un très grand orateur. Et donc, c'est pour ça qu'il est attendu au tournant aussi pour son premier grand discours au Congrès, parce qu'il est mauvais, il n'est pas très charismatique. Mais justement, après le monstre de charisme de Donald Trump, c'était peut-être finalement... C'est le président normal, hein, pour prendre une expression française,
bien sûr.
Que les Américains attendaient.
Justement, le Congrès où Joe Biden prononcera demain son premier discours de politique générale, c'est là que se trouve... finalement ces menaces, ce qui pourrait entraver un petit peu sa marche en avant, parce qu'il bénéficie certes d'une majorité, mais très étriquée, Joe Biden au Congrès. On sait que les mesures américaines passent par le Congrès américain.
Oui, vous avez raison d'insister sur ces minuscules majorités au Congrès. Au Sénat, c'est l'égalité parfaite entre les républicains et démocrates, 50-50. Donc c'est le mécanisme constitutionnel qui fait que quand il y a égalité, c'est la vice-présidente, en l'occurrence Kamala Harris, qui vient faire la 101e voix. Donc ça a une voix près, qu'il a sa majorité au Sénat. Et à la Chambre des représentants, c'est une petite dizaine, je crois, à peine, entre 10 et 20 circonscriptions qu'ont remporté les démocrates par rapport aux républicains. Donc c'est très peu, il suffit d'un décès d'un sénateur pour que tout change au Sénat. Et bien entendu, d'ici un an et demi, il y aura les midterms de 2022, avec hier, donc c'est tout nouveau, la nouvelle carte électorale qui a été publiée par le Bureau du recensement, où on voit, ce qu'on s'y attendait, mais c'est confirmé, que la population dans les États rouges républicains a augmenté, donc il y aura plus de circonscriptions dans les États républicains, tandis que la population des États bleus démocrates a baissé, donc il y aura moins de circonscriptions démocrates.
Et est-ce qu'il peut...
législatives l'année prochaine.
Est-ce qu'il peut faire bouger le Congrès, justement, Joe Biden? Il a lancé un appel au début du mois au Congrès sur une question très délicate, c'est celle des armes à feu. Il y a eu énormément de fusillades depuis le début de son mandat aux États-Unis. C'est un mal qui gangrène les États-Unis. Quand il lance un appel au Congrès, ça peut être entendu ou de fait, ce sujet-là, on considère qu'il sera bloqué par le Congrès. Et si oui, pourquoi?
Ça n'aboutira pas. Sur cette question des armes à feu, la polarisation est tellement énorme, les positions tellement inflexibles, qu'au contraire, le risque que prend Biden, c'est tout à son honneur hein, d'essayer de parler de ça et d'améliorer la situation, mais c'est de motiver les électeurs républicains pour les élections justement de midterms de l'année prochaine, en donnant des munitions, pardon, c'est terrible comme jeu de mots, mais en donnant des raisons, des arguments aux républicains pour dire à leur base l'année prochaine, vous voyez, Biden va venir nous confisquer nos fusils et nos mitraillettes, donc il faut voter pour nous. Donc c'est vraiment un billard à trois bandes et qui est très 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 difficile à gagner pour les démocrates.
Et donc agir pour Joe Biden sans diviser politiquement, voilà tout l'enjeu de sa présidence, parce qu'évidemment, et vous l'avez souligné Françoise Coste, dans le viseur, il y a ce que vous avez appelé les midterms, hein, les élections de mi-mandat fin 2022, avec le risque évidemment de perdre énormément de sièges et donc de refaire basculer cette majorité au Congrès qu'on évoquait déjà très friable. Merci Françoise Coste.
Merci à vous.
Historienne, spécialiste des États-Unis, professeure à l'Université de Toulouse, autrice de Reagan aux éditions Perrin, invité de décryptage, l'émission de RFI qui touche à présent à sa fin. Merci à Rémi Bayol qui m'a aidé à préparer cette émission. Hélène Avril derrière la vitre à la réalisation, documentation sonothèque de RFI. Évidemment, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rfi.fr, la podcaster comme chaque soir. Dans un instant, le débat du jour, Adrien Delgrange. Faut-il réformer le football européen? Voilà la question ce soir.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. Priorité santé.